Et le titre de notre message, c'est l'agonie en Gethsémani. Je ne crois pas qu'il existe un mot en français qui corresponde avec ce que Jésus a dû sentir. L'expérience que nous voulons méditer aujourd'hui, c'est quelque chose qui était nouveau pour le Seigneur. Le Seigneur avait beaucoup souffert avant. Il connaissait la souffrance. En fin de compte, le verset que vous voyez quand nous entrions ce matin, c'était Ésaïe chapitre 53, verset 3, qui dit prophétiquement, en parlant de Jésus, 700 ans avant qu'il soit né, Christ est méprisé. Ils m'ont méprisé dans un seul verset utilisé deux fois. Il était méprisé, délaissé des hommes, détesté, mis à l'écart, jamais apprécié, pas aimé. Il était un homme de douleur. Ce mot douleur est un mot qui se trouve 15 fois dans l'Ancien Testament et dans le Louis II, il est traduit à chaque fois douleur. Très intéressant que dans la plupart des versions anglaises, il est traduit tristesse ou bien sorrows. Enfin, 12 fois sur 15 dans la Bible anglaise, c'est traduit sorrows et deux fois c'est traduit grief, qui est un peu plus fort encore, suivant le contexte. Et une seule fois, il est traduit pain, c'est-à-dire douleur. Les deux sont vrais parce que c'est un mot qui veut dire non simplement de souffrir et de le sentir, ou de souffrir sans sentir. Enfin, on peut avoir des douleurs, n'est-ce pas ? Sans vraiment souffrir. Des petites douleurs, on a tous. Ça ne nous gêne pas trop, on vit avec ça. Mais le mot qui est employé ici, c'est un mot qui comprend les deux idées. Christ était un homme de douleur, et plus qu'on aurait pensé. Je dirais, j'ai mes épreuves, vous avez vos épreuves, vous avez vos épreuves, chacun a ses épreuves, chacun s'en occupe de ses épreuves. Jésus s'en occupait des épreuves de tous. Il connaissait tous, il souffrait. Il est intéressant que dans le Nouveau Testament, il n'est jamais dit que Jésus riait ou souriait même. Il a sans doute fait ça, mais il est dit beaucoup de fois, il était triste. Il a pleuré. Il a crié de douleur. Pas parce que il était quelqu'un qui n'était pas vraiment macho. Pas du tout, au contraire. Il est venu pour souffrir. Et c'est ça ce qu'il faut que nous réfléchissions en tant qu'assemblée avant de prendre la Sainte Cène. Jésus-Christ était appelé un homme de douleur, un homme qui a été méprisé, un homme qui a été mis à l'écart, connaissait la totalité de la peine de qui que ce soit, pas simplement les peines physiques, mais il savait la cause. Les scientifiques sont toujours en train de trouver une cause. Ils peuvent traiter des symptômes. Mais j'ai lu la semaine dernière qu'ils sont presque au précipice de trouver une cause et solution pour le sida, sans parler de l'abstinence immorale. Ils cherchent la cause pour trouver la solution. Jésus savait la cause de la peine, des douleurs, de souffrance, de tout le monde, et il souffrait à cause de ça. Il est venu ici pour traiter ça. Et donc, dans notre texte, qui est un texte qui a lieu dans le jardin de Gethsémané, et je remets les versets comme nous avons vu juste à la fin, nous lisons la plus grande souffrance que Jésus a souffert. Vous dites, je croyais que c'était à la croix. Oui et non. Parce que ce que Jésus allait expérimenter ici dans le jardin de Gethsémané, comme j'ai dit tout au début du message, c'était quelque chose de nouveau pour lui. Il avait souffert tout seul, comme tout le monde. Il était entré dans la peine des autres personnes. Nous disons souvent, même souvent à la légère, « Oh, je sentis ton douleur. » Parfois on dit ça en rigolant. Parfois on dit ça tout sincèrement quand quelqu'un souffre, quand il y a quelqu'un qui perd un ami par la mort, quand il y a quelqu'un qui souffre par une maladie. On dit « Oh, je sens votre douleur. » Ce n'est pas vrai. On cherche à sentir. On est attristé. On n'est pas si heureux que si cette personne n'avait pas cette douleur. Et quand on est à côté de lui, on ne fait pas des blagues. On est très sincèrement à côté de cette personne, cherchant à vivre ce que cette personne vive. Mais il n'est pas possible. D'une manière minuscule, peut-être, on cherche à mieux comprendre ces personnes. Mais au fur et à mesure, souvent la personne, après la perte de quelqu'un de très aimé, on est tous autour de cette personne, on souffre avec lui, mais au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, chacun soutient ses propres douleurs et cette personne est laissée tout seul pour souffrir tout seul. Nous ne savons pas souffrir avec les autres personnes. On devrait être sensible parce que Jésus dit pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. On cherche à comprendre des personnes. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas comprendre. Et Jésus a tout compris. Il a tout senti. Il a compris la souffrance sur chaque personne sur la planète. Il a compris le péché, il a compris la maladie, l'incrédulité, l'ignorance, rébellion, rejet, désobéissance, pauvreté, la perte, et il a compris certainement la mort. Quand ça arrive, Jésus se trouvait souvent au cimetière et au tombeau des personnes qui souffraient. Mais ce que Jésus allait souffrir maintenant, ce que Jésus souffre dans notre texte, était quelque chose. Était quelque chose qui était tellement sévère pour lui qu'il est presque mort en dessous la peine de cette souffrance. C'était une souffrance qu'il n'avait jamais subie avant. Elle était tellement, tellement sévère que la Bible dit ça évoquait les pleurs et les cris de lui. Elle était tellement sévère que la Bible dit qu'il transpirait des gouttes de sang dans sa sueur. Et sans doute, si ça aurait continué, s'il n'avait pas été assisté par un ange miraculeusement du ciel, il aurait pu expirer manque de sang à travers sa sueur. Et ça, c'était quelque chose qui est médicalement, scientifiquement explicable, compris, connu par des gens dans la médecine. Le stress dans un corps humain peut faire grandir les capillaires du sang jusqu'à ce qu'ils explosent. Et que le sang sorte, il y a des incidents historiques. C'est à la limite totale du stress humain, ce que Jésus n'avait jamais senti avant ce soir que nous lisons. C'était tellement sévère qu'il était presque mort à cause de cela. Nous voulons relire ce que Timothée a lu tout à l'heure. Vous pouvez suivre sur l'écran, vous pouvez suivre dans vos Bibles, ou si vous avez une autre traduction, dans une autre langue, peut-être en coréen ou une autre langue, vous pouvez essayer de suivre. Je remarquerai de temps en temps le verset, pour que si vous suivez dans une autre version, vous ne vous perdiez pas. Verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous pendant que je prierai. » Verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, à qui ? Pas les 8 qui restaient, mais les 3 qui sont allés plus loin dans le jardin avec lui, Pierre, Jean et Jacques. Il leur dit, verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » C'est-à-dire, regardez. Sois à l'alerte. Ne manquez rien de ce que vous allez entendre et voir. Verset 35, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Il pria. S'il était possible que cette heure s'éloigne de lui, il disait, Abba, Père. Abba, c'est un nom qui veut dire ce qui est très intime. Aucun juif n'oserait jamais utiliser le nom Abba dans la prière. Même pas Père. Ils ne mentionneraient jamais le mot Dieu dans leur prière. Abba, Père, dit Jésus, toutes choses te sont possibles. Êtes-vous convaincu que toutes choses sont possibles? Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 37. Et il vint vers les disciples qui trouva endormi. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure? Veillez. Comme je vous avais demandé avant. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fut la même prière. Il revint pour la deuxième fois et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Puis revient pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici, celui qui m'élève s'approche. » Voyons au moins 9 différentes divisions, 9 différentes activités. Verset 32, voyez, Jésus se retire pour prier. Le jardin de Gethsémané était un jardin qui avait été traité par un ami, sans doute. C'était un jardin assez large. Toutes les gens de la ville, ils sortaient à l'extérieur, ils avaient leur petit champ où ils comme ici en France, souvent dans des grandes villes, les gens vivent dans des appartements, mais ils sortent pour faire leurs quelques mètres carrés. C'était quelqu'un peut-être plus riche qui avait un jardin suffisamment large où Jésus peut entrer avec ses disciples et dit aux 8, restez-vous ici, je vais aller plus loin avec Jean, Jacques et Pierre. Il va plus loin avec eux où les 8 ne peuvent pas l'entendre. Il commence à annoncer certaines choses aux 3 qui n'annonçaient pas aux 8. Et puis, veillez et priez. Et des exemples dit qu'il est allé à peu près la distance où vous pouvez lancer une pierre, mais toujours assez proche pour qu'il puisse entendre ses prières, ses cris. Et il va plus loin. Donc, il retire pour prier, il prend 3 disciples avec lui, verset 33, il devient visiblement agité et angoissé et peiné. C'était un cas psychique, on dirait presque, mais contrôlé, restreint, il s'était troublé par cela. Enfin, Luc nous dit que les disciples s'endormaient à cause de tristesse. Et c'est vrai que parfois la tristesse est si forte, la dépression est si forte, il y a des gens qui se dépriment, et la dépression est si forte, ils passent une bonne partie de leur temps s'endormant. Parce que c'est un tranquillisant. C'est une défaut de la nature de s'endormir pour ne pas oublier, pour pouvoir oublier ce qui se passe. Et c'était plutôt ça que tout simplement qu'ils voyaient des choses à la légère. Ils n'ont rien compris. Ils n'avaient jamais vu leur maître dans cet état angoissé. Ils avaient vu Jésus très sérieux. Ils avaient vu Jésus déjà angoissé. Mais pas comme ça. Ça, c'était quelque chose de différent. Et il a verbalisé cela au verset 34. Il disait au verset 34, et vous le voyez, puis il faisait quelque part le rang, il disait à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il veut qu'ils comprennent, ce n'est pas juste une tristesse normale. Je suis, à moins que Dieu fasse quelque chose, je ne peux pas soutenir. Je vais mourir. Et puis, en verset 34, donc, il exhorte qu'il soit à l'alerte, qu'il veille. Ils ne sont pas là pour l'aider, ils sont là pour apprendre certaines choses. Il faut qu'ils apprennent dans leur vie, veiller et prier. Et avant que cet événement va terminer, il va leur montrer, comme j'espère qu'il va nous montrer, notre manque de prière, l'absence de prière dans notre vie quotidienne. Et donc nous sommes disponibles de se céder, de se succomber aux tentations de Satan. Nous savons que c'était une tentation de Satan. Je voudrais peut-être que vous regardez, je ne l'ai pas mis sur, mais regardez, gardez votre place en Marc, mais regardez en Luc chapitre 22, où en verset... Verset 53, Luc chapitre 22, verset 53, c'est au moment où Jésus est arrêté, il va dire, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis une main sur moi, mais c'est ici votre heure. C'est la puissance des ténèbres. C'est l'heure. Souvent, Jésus avait dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Très souvent, on a vu ça dans les évangiles. Maintenant, l'heure arrive. Jésus sait que l'heure arrive. Il annonce que l'heure arrive. Mais ils ne comprennent pas. Il leur avait dit, ça s'approche. Mais ils ne comprennent pas. Donc, veillez et priez parce que l'heure où Satan va avoir sa plus, va faire sa plus grande effort de dérailler notre salut arrive. Je crois qu'on a besoin de comprendre, Satan n'était pas derrière la crucifixion. Satan ne voulait pas que Jésus soit crucifié. Satan voulait que Jésus meure sans porter le péché des hommes et des femmes et l'humanité sur lui. Mais il ne veut pas que Jésus va jusqu'au moment où il est présenté comme un sacrifice sanglant pour porter les péchés de l'homme. Jésus dit à ses disciples, soyez à l'alerte. Et puis verset 35, il s'adresse à Dieu trois fois. Trois fois, il revient à ses disciples. Il prie, mais il est interdit. Ça, c'est quelque chose que je vois absolument impensable et merveilleux, que Jésus, avec l'extrême détresse qu'il ressent dans son âme, il pense toujours à ses disciples, il interrompt la prière pour aller vers eux, pour voir s'ils veillent, s'ils prient, parce qu'il sait ce qui arrive en quelques, dans une heure, moins qu'une heure. Trois fois il va. Non, 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 réveillez-vous. Oh, si seulement vous pouvez comprendre ce qui est en train. Si vous veillez et vous priez, vous allez réagir comme il faut. Mais si vous ne veillez pas et priez pas, vous allez réagir instinctivement, humainement, follement, sans la paix et la direction de Dieu. Donc il répète cela. Il répète ses visites en 37 et 30 et 40 et 41. Ce que nous voulons voir ce matin, c'est que cette affliction, et c'est ce que qu'appellent les théologiens souvent dans les commentaires, ils appellent cette affliction une affliction transcendante. Il est appelé la dernière tentation de Jésus-Christ. C'était véritablement ça. C'est une affliction transcendante. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire une affliction qui dépasse toute capacité de l'être humain de comprendre. Ça dépasse toute chose. En fin de compte, quand nous lisons ceci, on ne peut pas comprendre. On est incapable de saisir la souffrance que Jésus est en train de subir, pas encore sur la croix du calvaire, mais dans le jardin de Gethsémani. Je crois que j'ai mieux compris cette semaine dans mes réflexions sur ce passage que jamais avant la différence entre la tentation de Jésus et la tentation de l'homme. Votre tentation est basée sur le péché en vous, n'est-ce pas ? Le mien. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais oh, les traces de péché en nous, les désirs qui sont juste en dessous la surface, les sollicitations vers ce désir de l'extérieur par les mots, par des personnes, par des images, par mille choses, peuvent très facilement demander tout de suite notre intérêt, et commander même notre action. Et on soumet à la tentation. C'est basé sur des désirs impurs. La tentation de Jésus, c'était le contraire. Ce n'était pas basé sur le péché, c'était basé sur sa sainteté. Il n'avait rien en Jésus-Christ que la pureté, la sainteté, qui n'était pas touchée par les désirs impurs. Satan peut venir vers vous et vers moi, et il est venu vers Jésus. Il est venu, vous vous rappelez, au début de son ministère. Il avait dit, Jésus, écoute, regarde, tu devrais être le roi sur toute la terre. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Tout cela t'appartient, oui ou non? Oui. Mais en fin de compte, tu peux l'avoir sans passer par la croix. Prosternez-vous devant moi, je te le donne tout de suite. C'est pas la peine que tu passes par la croix. Satan avait offert à Jésus-Christ, c'était une tentation qui n'a même pas touché. Jésus n'a pas dit, ça risque d'être une bonne idée, mais bon, il vaut mieux pas. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Devant la tentation, Jésus n'était jamais comme ça. Il n'avait rien dans son cœur, dans sa nature, qui voulait même pour une petite minuscule d'une seconde répondu favorablement vers une sollicitation au péché. La tentation de Jésus était basée sur sa justice, sur sa sainteté. Nous avons cultivé le goût pour ceci ou pour cela, pour la colère. Il y a souvent des gens qui disent « j'arrive pas à traiter ma colère ». Parfois, ils ne savent pas parce qu'ils aiment la colère. Ils aiment cette colère délicieuse de détester des personnes qu'ils n'aiment pas. C'est délicieux de ne pas aimer. C'est délicieux de détester la personne qui est notre adversaire. C'est une joie pervertie, tordue, mais c'est un désir qu'on aime. On déteste parce qu'on aime détester. Que ce soit la jalousie, que ce soit la convoitise, que ce soit le désir d'être connu, d'être riche, d'être le meilleur joueur dans les Olympiques. On en parle. Le but de tout, c'est pas vraiment de l'argent, c'est d'être connu. Ce n'est pas la médaille d'argent, c'est une médaille d'or. Oh, argent, c'est bien. Si je ne peux pas avoir l'or, mais c'est l'or que je veux, parce que c'est l'or qui me glorifie le plus. Satan cherchait à dérailler Jésus par ça. Ça n'a même pas touché Jésus du tout. Satan disait, il est écrit. Qu'est-ce que tu fais, Satan? Je ne veux pas ça. Ça, c'est comme chercher de dérailler quelqu'un qui est en train de manger un steak bien cuit et bien saisonné par un soupe des mouches. Et vous savez, on fait de pire. Dieu nous a sauvés par sa grâce, nous a changé le désir de ça, de soupe des mouches et des moustiques et des magots. Pour la gloire de Jésus, et on peut être tenté de ça à ça. Et on revient. Et Pierre dit, comme un chien revient à son vomi. Jésus n'était jamais touché du tout par une telle sorte de tentation. La tentation qui arrive à Jésus cette nuit était une appréhension que le moment arrive où il serait fait péché. Il deviendra une malédiction. Il n'est jamais devenu péché avant. Il vivait parmi des pécheurs. Il vivait parmi la pourriture de péché. Il devait garder son nez souvent et il souffrait, mais cela n'a pas touché Jésus-Christ. Maintenant le moment arrive, c'est l'heure du malin, c'est l'heure des ténèbres, mais c'est l'heure où Dieu lui-même, le Père, fera de son Fils péché, et en faisant cela, il allait tourner le dos sur lui parce qu'il ne pourrait pas accepter la pourriture de son fils qui n'est pas pécheur. Mais de Corinthiens dit, il est devenu péché. Ça, c'est quelque chose que nous devrions ressentir la tentation de Jésus, certains disent, et je l'avais souvent pensé, mais Jésus manifestait une certaine faiblesse parce que le moment arrive et, oh Dieu, si c'est possible, tu peux tout faire, n'est-ce pas? Il est marqué, tu peux tout faire. Est-ce que Dieu peut tout faire? Oui, il peut tout faire. Et nous lisons à plusieurs reprises, Dieu fait ce qu'il veut. Il ne veut pas certaines choses. Dieu, le Père, voulait. Ésaïe 53, verset 9, je crois, il dit, écraser son fils. Il a voulu. Il aurait pu ne pas écraser son fils, il aurait voulu. Mais il a voulu, il ne pouvait pas ne pas vouloir. Et le fils n'était pas moins fort que le Père. Mais la réaction de Jésus-Christ face à cette épreuve n'était pas une réaction de faiblesse, au contraire, c'était une réaction de quelqu'un de absolument, purement, 100% saint. L'horreur d'être, de recevoir le péché, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez saisir ce qui est en train de se faire? Non, vous ne pouvez pas saisir parce que vous êtes pécheur. Vos tentations n'ont rien à faire avec sa tentation. Vos tentations sont des petits plaisirs du monde qu'il, Satan, présente en échange au grand plaisir de Dieu. Et nous le faisons. Notre tentation, c'est de ne pas faire cet échange, ce que nous faisons. Ce n'est pas du tout sa tentation du tout. Sa tentation, c'est de devenir ça. Ce qu'il n'avait pas avant. Je pense à une illustration qui était horrible. Mais je l'avais lu ça à plusieurs reprises, donc je crois que dans certaines sociétés, c'était le cas. La peine pour le meurtre. Vous savez ce qu'il faisait pour le meurtre? Si tu es attrapé comme un meurtrier, la personne que tu as tuée est lié à votre corps et vous devez passer le restant de votre vie avec un corps humain en train de pourrir. Vous dormez avec lui, vous mangez avec lui, vous ne bougez pas avec lui. Horrible! Et je dis le restant de votre vie parce que avant qu'il soit entièrement pourri, vous seriez malade et votre corps aussi commencerait de se pourrir avec le sien. C'est horrible à penser ça, n'est-ce pas? C'était une illustration, je crois, de ce qui arrive sur Jésus, sauf pire que ça. C'était pas simplement la pourriture de chair qui se pourrir. C'était la creuse, c'était ça, oui, c'était bien ça. C'était plus que cela. Mais c'était la creuse de tout cela. Dieu peut ne pas tourner sa tête contre des événements si le péché n'était pas attaché dedans. C'est le péché qui est la chose terrible pour le Seigneur. La tentation de Jésus était transcendante parce que ça dépasse notre capacité de comprendre sa tentation. Ce n'était pas basé sur le péché comme nos tentations. C'était basé sur la justice et le moment, l'heure de ténèbres arrive où le corps de l'humanité sera lié sur son corps et beaucoup pire que cela. Pour chaque personne qui a jamais vécu, pour toutes les personnes, il allait porter la pourriture de l'éternité sur son corps, sur la croix. Et donc, quand nous lisons que Jésus-Christ priait, il se jeta par terre. Et ses disciples pourraient entendre. Combien de temps? Une heure totale, parce que Jésus dit, je ne vous demandais que de rester une heure avec moi. Je n'ai pas demandé toute la journée. je n'ai demandé qu'une heure, mais vous n'avez pas pu même. Vous n'avez pas vu la nécessité. Vous n'avez pas pensé que c'était si grave que ça. Vous pensez que peut-être je passerai une expérience difficile, mais ça, comme toutes les autres choses, va passer. Je ne vous ai demandé qu'une heure. Il a dit. Et puis, oh Jésus, si c'est possible, peux-tu éloigner, peux-tu me faire passer à côté de cette épreuve? Peux-tu faire que ça se fasse par une autre manière? Une abhorrence, une théorisation entièrement normale pour un être saint et entièrement pur et pleine de justice, donc pas un seul souillure de péché se trouve en lui et en sa nature. Quand nous venons aux Saintes Cènes, nous voulons voir cela, nous voulons méditer. Et quand nous prenons la coupe, c'est appelé la coupe, on aurait pu mettre l'agonie de la coupe, oh si c'est possible que cette coupe passe. Mais tout de suite, je sais que ce n'est pas possible et je ne le veux pas. Je recule en horreur de cela. Je ne peux pas faire autrement, mais je sais que je peux et que tu peux me soutenir. Et Dieu a envoyé un ange, nous lisons. Pourquoi il y avait Pierre et Jean et Pierre et Jean et Jacques avec lui dedans? Je crois que probablement parce que il a voulu qu'il apprenne quelque chose. Si c'est bien quand vous souffrez, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de vous, mais Jésus savait qu'il ne pouvait même pas comprendre du tout. Jésus savait qu'il allait mourir demain matin. Il savait qu'il allait quitter ses disciples. Il savait qu'ils étaient très lourds à comprendre certaines choses. Il prouvait cela dans le jardin. Il ne pouvait même pas rester éveillé pour cet événement tellement marquant pour Jésus. Ce qui est vraiment intéressant, j'avais déjà noté le fait qu'il interrompit sa prière à plusieurs reprises pour aller voir comment vont les disciples. Il va faire ça sur la croix aussi. Il va dire, Jean, prends soin de ta mère. Gardera, pensez aux autres, il souffrait pour les autres. Sa souffrance n'a jamais été pour lui, sa souffrance était toujours pour les autres. Donc il dit en verset 38, veillez et priez. Pourquoi veillez et priez? Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous permettre de ne pas tomber en tentation. Nous n'allons jamais expérimenter la tentation que Jésus expérimentait. Mais nous allons expérimenter la tentation féroce. Jésus qui a pris sur lui la totalité des tentations des hommes, il n'avait rien dans sa nature qui répondait positivement vers cette sollicitation. Il comprend tout quand même. Il dit, oh, si seulement vous pourriez savoir ce qui arrive, vous ne serez pas dans cet état de sommeil spirituellement. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Fait ça une deuxième fois. Il revint pour la troisième fois, verset 41, et il leur dit, ça y est, pas la peine de réveiller maintenant. Si vous n'allez pas réveiller, continuez à dormir parce que c'est trop tard maintenant de veiller et prier. Regarde ce qui arrive. C'est assez. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux fins des pécheurs. Et puis qu'est-ce qu'il dit en verset 42? 42 est la preuve que Jésus était soumis entièrement, la victoire est gagnée. l'épreuve est derrière lui, il va maintenant tenir ce qui arrive avec aise par rapport à la lutte avant. Cette lutte ne reviendra pas. Satan n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Satan faisait son mieux de dire à Jésus, de forcer Jésus de dire, Père, je ne peux plus, ça y est, c'est fini, je ne peux pas, je ne peux pas. Il a presque dit ça. Enfin, il est très intéressant qu'en Jean chapitre 12, si vous aimeriez regarder avec moi, Jean chapitre 12 et verset Jean 12, j'ai dit. Jésus disait en verset 27, alors ça c'est quelques temps avant cet événement. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Est-ce que je dirais ça? Mais non. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Qu'est-ce que je vais dire? Mon âme est tellement troublée. Qu'est-ce que je dois dire? Père, délivre-moi de cette heure? Ah non, je ne devrais pas dire ça. Il a dit ça. Père, délivre-moi de cette heure. Si c'est possible que tu trouves un autre moyen. Néanmoins, je sais que tu ne vas pas trouver un autre moyen. Il n'existe aucun autre moyen pour que l'homme puisse être délivré. Donc, c'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Et c'est le mot, c'est ce dernier verset que nous avons dans notre texte qui est triomphant. Levez-vous. Alors, debout. Allez. Les Français disent toujours, allez, hop. J'entends ça souvent. C'est ce qu'ils disaient. C'est ce que disait Jésus. Alors, voici. Celui qui me livre s'approche. Pas une question de tourner le dos et chercher un moyen d'échappe. Non, allons-y. Judas vient. On va aller vers Judas. On va aller vers les autres. Ça y est, la bataille est gagnée. La tentation, l'épreuve est derrière moi. Le reste, ça va être dur, ça va faire du mal. Jésus va crier sur la croix, « Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais jamais dans un état de défaite. Il se souciait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout dans son humanité, de ne pouvoir accepter la malédiction qui arrive. Le péché qui arrive où il deviendra péché, ce qui n'a jamais été pécheur et qui n'a jamais fait un péché. Il devient ça avec toutes ses ramifications. J'arrive pas à trouver les mots horribles pour parler. Mais Dieu permet dans la vie quotidienne, dans la puriture de la vie qui est devenue mort et qui maintenant doit être enlevée le plus loin possible, enterrée dans la terre, mais jamais devant les personnes. Il faut enlever la mort parce que rien en pourriture et en sang est pire que cela. Jésus doit prendre cela sur lui. Et il a fait. Il a gagné. Il a été triomphant. Et nous sommes sauvés. À cause de cela, nous avons une très superficielle connaissance de notre Seigneur et de notre Sauveur, parce que nous ne passions pas le temps de réfléchir la raison d'être pour la Sainte Seine. La raison d'être pour la Sainte Seine. Paul dit, je vous rappelle ce que Jésus dit, à chaque fois que vous rassembliez, pour observer ceci, faites cela de tout votre cœur, soyez connecté intellectuellement, cherchez de votre mieux de comprendre bibliquement ce qui est en train de se faire. Et adorez le Seigneur à travers la Sainte Seine. La Sainte Seine est pour ceux qui ont été sauvés par cette tentation de Jésus-Christ, pour ceux qui ont compris c'est mes péchés, c'est mon corps mort qui a été lié contre son corps pur et vivant. Et en fin de compte, la colère du juge divin va tomber, pas légèrement parce que c'est son fils, mais dans la furie. C'est un pécheur devant lui, c'est le péché devant lui. Et ça tombe dans toute sa furie. Il avait abandonné son fils. Mais son fils n'a pas pu rester abandonné. Et pourquoi pas? Parce que c'est lui, et je termine avec ceci, c'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, avec prières, avec supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, on s'arrête là. Est-ce que Jésus a été sauvé de la mort? Il est mort. Il n'est pas resté mort. Pourquoi pas? À cause de sa piété. Et nous serons vivants après la mort aussi à cause de sa piété. La mort l'a atteint, on dirait. Mais non, parce que la mort ne peut pas tenir un pieu, dans la définition de Dieu, pas toi et moi, pour nous la piété relative. Donc Christ a été sauvé dans cet instant de la mort à cause de la piété. Le troisième jour, il est ressuscité parmi les morts à cause de sa piété. La justice de Jésus-Christ interdisait que il pouvait rester. Ça, c'était l'argumentation de Pierre dans Actes, et nous avons vu ça il y a un an ou un an et demi, lorsque nous étions dans le troisième chapitre de Actes. C'était l'argumentation. Il n'était pas possible que Jésus-Christ ne soit pas ressuscité parmi les morts. Ça, c'était son argument. Et c'était un argument très fort et des Écritures. La mort ne pouvait pas le contenir. Même si ça semble l'atteindre, il ne peut pas rester. Et je crois que ça revient juste maintenant à l'esprit. Mais c'était un peu comme un ballon. Tu peux lancer dans la rivière de la mort des cailloux, et à chaque fois, sans exception, il plonge jusqu'au bas, mais si vous lancez un ballon dans la, vous pouvez même le tirer en bas, mais si vous le relâchez, ça remonte, n'est-ce pas? C'est ça que représente Jésus. Chaque être humain était lancé dans la rivière de la mort, sans exception, mort, 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 atteint par la mort. La première fois que monsieur la mort arrive, où il ne pouvait pas retenir la personne morte. Morte, oui, en dessous de l'eau, une fois relâché, il est remonté. Il est ressuscité, la troisième jour. Et c'est ça ce que nous célébrons.